BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve comme chaque week-end à la fois sur BFM Business, vous le savez, à la radio, à la télé, samedi et dimanche, mais aussi sur 01 TV dès le vendredi, en podcast audio, en vidéo sur tous vos écrans, sur l'appli RMC, BFM Play, bref, pour rater De quoi je me mêle, il faut le vouloir. Merci d'être là, au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure. On va s'intéresser à Fitbit, vous le savez, cette boîte qui fabrique des montres connectées, des bracelets aussi. Avec une particularité, il mesure quelques aspects de notre santé. Je recevrai tout à l'heure la directrice générale de Fitbit France. Elle sera mon invitée, d'autant que l'actualité de Fitbit est quand même assez chaude, si je puis dire, puisque vous l'avez peut-être vu. Dans l'actualité, Fitbit rappelle 1 700 000 bracelets parce que, il y a eu des problèmes de batterie qui brûlaient en fait la peau de certains utilisateurs. On en parlera dans quelques instants. Je vous rappelle aussi que le hashtag DQJMM est à votre disposition sur Twitter. On est aussi sur Facebook. Merci de nous suivre et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on bien sûr, ça c'est un nouveau mot, une nouvelle, si vous voulez, coordination de mots. On commence bien entendu par le club de la presse Haïti avec Anthony Morel qui est là. Bonjour Anthony.
Salut François, salut à tous.
Anthony qui est journaliste à BFM Business, qu'on retrouve aussi chez Apolline,
Estelle.
Chez Estelle.
Ouais, le midi.
Je pense que j'ai mangé trop de tapas au Mobile World
Mais
Congress.
Mais ça c'est l'effet Mobile World Congress. Hein. Ça fait ça toujours. Quand on revient, il y a 2 ou 3 jours pour se réadapter quand même.
Hein. Cela dit, tu passais aussi chez Apolline.
Mais
il y a
oui, l'an dernier, voilà, mais on change d'horaire.
Voilà, et on te retrouve donc tous les jours avec donc Estelle Denis sur RMC. Alors, Anthony, l'actualité de cette semaine, bien sûr, on va parler du Mobile World Congress, on va parler aussi de ce conflit Ukraine-Russie, hein, et cette guerre numérique hein, que se mènent tous ces continents et tous ces pays. C'est passionnant. Commençons donc par le Mobile World Congress. Alors, moi, j'ai eu la chance d'y être.
Oui.
Mais bien sûr, tu as suivi tout ça.
Oui, absolument.
Tu en as parlé sur les différents médias de ce groupe. Intéressant parce que déjà l'ambiance de ce Mobile World Congress, hein, ça faisait quasiment 2 ans qu'il n'y avait pas de salon. Il y en a eu un l'année dernière qui s'est déroulé en juin, mais c'était un salon, on va dire, vraiment liquide.
Ouais, dégradé,
quasiment.
Ouais.
Il y avait...
En mode dégradé.
Voilà. Quasiment personne, etc.
Là, il y avait du monde, comment c'était ? Parce que moi, du coup, j'ai suivi ça d'ici, mais...
Il y avait du monde.
Ouais.
Il y avait du monde. Écoute, pour avoir fait les 2 salons du début de l'année, là, CES et Mobile World Congress, CES, c'était un peu vide, mais là, Mobile World Congress, énormément de monde. Les allées, tu sais, de ces salons qu'on connaît, toi et
ah,
moi,
oui,
par
oui,
cœur.
C'est...
Tu sais, il y a un indicateur, c'est quand tu es obligé de slalomer entre les gens qui ne te regardent pas ou sont sur leur téléphone, etc.
Ce qui est bien en temps normal.
Voilà, c'est ça.
On est d'accord.
Et en temps normal, c'était comme ça cette année. Il y avait du monde, vraiment, avec toujours beaucoup de technologie dans ce salon. Hein. Tu n'as plus de badge papier, par exemple. Ton téléphone, tu t'enregistres sur ton téléphone, on te fait un scan de ton visage.
Il était
et tu
temps
passes.
En même temps.
Oui,
salon du mobile, bon, voilà. Mais exactement. Absolument, tu as raison, ça évolue.
Hein, et tu passes directement donc, en biométrie, tu as une reconnaissance faciale. C'est un peu comme les voitures au péage, tu sais.
Ouais,
tu passes et automatiquement, tu rentres dans ce salon. Et donc, bien sûr, on était là-bas, à la fois pour Tech & Co et pour 01 TV, pour découvrir pas mal d'annonces. On en a eu d'intéressantes. Alors, à la fois en hardware, avec des smartphones, des PC, ouais. des petits appareils aussi audio, etc. Mais surtout, concernant les réseaux.
Ouais, c'est plus ça, en fait. Moi, c'est pour ça que j'y vais plus, ou en tout cas moins souvent. Avant, j'y allais tous les ans. Mais comme j'y allais pour la télé, il faut quand même des trucs un peu visuels.
Oui.
Et c'est vrai qu'à une époque, c'était la grand-messe vraiment de la téléphonie mobile. Tu avais tous les nouveaux flagship qui était annoncé à ce moment-là, il y avait des trucs très visuels, très sympas.
C'est vrai.
Maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup d'annonces d'opérateurs, d'équipementiers. C'est hyper intéressant quand on suit le secteur, évidemment.
Mais c'est moins spectaculaire.
C'est moins spectaculaire à la caméra, on va dire. Voilà.
Ouais, c'est intéressant parce que c'est un salon qui est très prospectif. Donc, on découvre un peu les réseaux de demain. J'ai réalisé une interview pour Tech & Co d'un des dirigeants de Nokia qui imagine déjà la 6G comment tous ces réseaux vont évoluer. Et c'est en 2030. Hein.
Ouais.
C'est
bon. 6G, ouais, tout le monde travaille dessus. Là. Nokia, ouais. Samsung, Huawei, il y a des
Ils
gros investissements.
Un standard technique.
Exactement, en train d'imaginer le futur avec des débits qui seraient encore plus impressionnants que la 5G, la possibilité de concevoir des jumeaux numériques extrêmement sophistiqués, d'avoir des conversations par hologramme interposé. Enfin, ça fait partie des cas d'usage auxquels ils réfléchissent. Donc, on est vraiment sur des trucs assez délirants. Et paradoxalement à ça, tu as une des annonces, mais je vais en parler. parler, c'est l'arrêt bientôt de la 2G et de la 3G. Donc voilà, c'est vraiment, on est au deux bouts du spectre, c'est le cas de le dire.
C'est hein, oh, joli.
Pas mal, hein, t'as
ah,
vu.
Ah, bravo.
T'as vu.
Ben oui, c'est vrai, d'un côté, on imagine la 6G, et puis d'un autre côté, ben, y a des technologies qu'on met au fond du placard.
C'est ça.
Qu'on va monter au grenier. Alors bon, c'est quand même un petit pincement au cœur, parce que la 2G, c'était le début du GSM, en quelque sorte. Hein.
Les licences UMTS, on appelait ça à l'époque, je me
c'était
souviens.
La 3G, l'UMTS.
Ah oui, 3G, oui, je parlais de 3G, oui, pardon, t'étais sur la 2G, excuse-moi.
La 2G, donc, qui était
c'était
le...
Edge.
Voilà, la 2G, c'était ouais. l'Edge, etc. Ouais. Et puis après, il y a la 3G qui est arrivée. Mm-hmm. Et bien voilà, ces deux technologies vont être mises de côté. On a déjà un calendrier. Alors, c'est Orange qui a annoncé ça, d'ailleurs, au micro de Tech & Co sur BFM Business. 2G 2025, 3G 2028.
C'est ça. Ça laisse un petit peu de temps pour se préparer quand même.
Temps, ouais.
Parce que c'est vrai que quand on a ce genre d'annonce, alors surtout dans le grand public, alors moi, peut-être, je suis un public technophile, bon, peut-être que ceux qui nous écoutent en moyenne ont peut-être plus tendance à changer de smartphone assez régulièrement, etc. Mais on se dit toujours, ah ouais, mais attendez, moi, ça veut dire que mon vieux smartphone, il va plus fonctionner, par exemple. En fait, on se rend compte que les gens qui ont des smartphones 2G, 3G et pas 4G, ça reste quand même assez limité aujourd'hui. Et dans 6 ans, ça le sera encore plus. Donc, ça laisse un petit peu de temps quand même pour se préparer à tout ça. C'est la fin d'une ère, c'est vrai, la fin d'une époque, parce que 2G, 3G, ça a marqué l'histoire de la téléphonie mobile. Là où ça risque d'être un petit peu plus compliqué, en revanche, c'est pour les entreprises, pour oui. les professionnels.
Parce les qu'il fameux y a machine beaucoup... to machine.
Et oui, c'est ça. C'est pas... on se rend pas forcément compte ben comme non. ça, parce que c'est moins proche de notre quotidien direct. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'appareils qui ont des connexions 2G ou 3G. Ça va des ascenseurs. Il y a des ascenseurs,
oui.
par exemple, bah voilà, qui
utilisent tu sais,
ça.
Quand tu es coincé dans un ascenseur, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais...
Heureusement non, mais... Ouais.
Avant, bah, c'était une paire de cuivres qui était branchée sur un téléphone, ouais. on va dire. Et puis après, on est passé à la 2G.
C'est ça.
Et donc, les ascenseurs relatifs récent, bah quand tu appuies, en fait, t'es pas en filaire,
exactement.
T'es en 2G.
T'es en 2G. Les horodateurs, même chose. Donc il y a un certain nombre d'appareils.
Ça, c'est plutôt
d'appareils.
Pas mal, s'ils
marchent
plus.
Oui, non, mais ça nous arrange.
On pourra dire, attendez, j'ai eu un PV, mais c'est normal, il n'y a plus de 2G. Les
absolument. Et même dans les voitures qui sont de plus en plus connectées, il y a beaucoup de composants.
Oui, donc ça va nécessiter des mises à jour hardware
voilà.
importantes.
C'est ça. Pour les constructeurs, il va y avoir quand même une prise en compte à réaliser. Alors, même si, encore une fois, le calendrier laisse un petit peu de temps pour s'adapter, c'est un changement qui n'est pas complètement anecdotique, comme on pourrait le croire en se disant, bon voilà, la 2G, la 3G, on est passé à autre chose, sachant que parfois dans certaines zones, on a bien du mal à capter en 4G aujourd'hui, y compris en France. Hein, donc voilà, 2G, 3G,
ouais.
c'est la fin d'une époque.
C'est la fin d'une époque. Après, il y a aussi des, on va dire, des raisons autres. Hein. Alors, il y a les raisons techniques, hein, bien sûr, puisque voilà, il y a quasi plus de téléphone 2G, donc voilà, ça a du sens. Mais il faut savoir que le réseau 2G est très consommateur d'énergie. Donc en fait, on va diminuer, imagine un peu l'économie que vont faire aussi les opérateurs télécoms.
Oui, parce
en
que
arrêtant la 2G,
absolument.
Ils vont arrêter évidemment des systèmes qui ont 20 ans.
Parce que c'est
qu'ils
ces fréquences,
il
faut rappeler qu'elles vont être en fait réattribuées, réutilisées oui. pour de la 5G notamment.
Pour de la 5G, hein. Mais on sait que la 5G est moins énergivore, donc voilà, ça va être aussi un petit geste pour la planète, et puis surtout, ça permettra aux opérateurs de faire des économies, donc c'est plutôt pas mal, et puis comme tu le disais, toutes ces fréquences vont être réutilisées
bah
pour...
Oui.
La 4G aussi.
Exactement,
et la 5G.
Bah oui, parce que c'est...
Donc voilà, c'est intéressant. Ça, c'était l'une des grosses annonces quand même de ce MWC. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce que les autres opérateurs, parce que là, c'est Orange qui parlait en son nom, est-ce que les SFR, les Bouygues, les Free vont suivre le chemin, sans doute.
Ils vont pas avoir trop le
choix.
Est-ce
qu'il y aura une coordination entre tous les opérateurs où chacun va faire ça de son côté?
Ouais, Orange, en tant qu'opérateur historique, prend le lead là-dessus, ça
bien
semble
sûr,
assez logique.
Ce qui est logique, bien sûr.
Mais oui, les autres vont suivre. Je pense qu'il n'y a pas tellement de doutes sur ce sujet-là. Mais ouais, t'as raison, c'était une des grosses. T'as eu des coups de cœur, toi, des trucs qui t'ont vraiment marqué, je sais pas, en termes de produits ou d'annonces particulières, c'est quoi qui t'a le plus plu ?
Bon, il y a eu pas mal de trucs. Il y a eu des annonces aussi, bah, toujours au micro de BFM Business dans Tech & Co. C'était, on avait le directeur France de Qualcomm, tu sais.
Ah oui, bien sûr.
Et Qualcomm, alors là, ils se sont régalés. Hein, au MWC, ils ont sorti un
communiqué
de presse long comme le bras.
J'ai vu ça. Ouais.
Des trucs très techniques, encore une fois. Hein, c'est intéressant parce que c'est avec eux que se dessine, en fait, la connectivité de demain. Hein. Qualcomm, Qualcomm, c'est un géant hein, dans ce domaine. Ils ont annoncé le Wi-Fi 7. Ouais. Tu as vu ça ?
Wi-Fi 7, le retour. On était à peine habitués au 6. Oui. S'il y avait le 6E aussi.
Mais voilà.
Mais effectivement, Wi-Fi 7, donc encore plus rapide, encore moins de latence. Il est de retour, c'est le Wi-Fi 7. Mais oui, alors c'est vrai que l'annonce est intéressante. Alors quand on regarde un petit peu les chiffres qu'ils ont donnés, donc quand je disais plus rapide, 5,8 gigabits par seconde, débit théorique hein, évidemment, 60% de plus par rapport à Wi-Fi 6, donc pas mal. Mais c'est surtout l'avantage, en tout cas c'est ce qu'ils mettent en avant, il faudra tester en conditions réelles, en labo, etc. C'est le temps de latence qui sera largement réduit, de l'ordre de divisé par 10, donc ce serait de 2 millisecondes je crois, avec toutes les applications possibles qu'on peut imaginer. Alors dans le jeu vidéo, la latence c'est hyper important, le cloud gaming, pour le développement du cloud gaming notamment, ça va être des trucs qui font que ça pourra peut-être se développer dans les années qui viennent. Et puis ils pensent aussi à tout ce qui est AR/VR, donc réalité augmentée, réalité virtuelle. Si effectivement, comme certains l'imaginent, on va vivre dans le métaverse, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Et ben on aura du Wi-Fi 7. Non mais c'est vrai, en même temps on a tous essayé les casques VR ou même les lunettes de réalité augmentée ou réalité mixte type HoloLens ou autre, et c'est vrai que c'est un des problèmes aujourd'hui, c'est-à-dire les petits lags, les petits temps de latence qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que si les technologies et notamment le Wi-Fi 7 peuvent permettre d'améliorer ça, pour le coup il y a probablement un vrai truc à faire là-dessus.
Ouais, ça c'est cool. Alors petite précision concernant le Wi-Fi 7, ce qu'il y a aussi d'impressionnant c'est le débit hein, puisque ça va être l'agrégation en fait de toutes les fréquences du Wi-Fi, et on pourrait monter jusqu'à quasiment 6 gigabits par seconde.
Ouais, c'est ça, c'est énorme, 6 gigabits par seconde. Il faudra avoir des appareils compatibles hein, toujours.
Alors évidemment. Voilà, il va falloir un routeur Wi-Fi 7 et un produit Wi-Fi 7.
Exactement.
Ce qui est intéressant, et ce que nous expliquait le patron de Qualcomm France, c'est que ces puces sont déjà fonctionnelles, même si le Wi-Fi 7 n'a pas été ratifié, tu sais, parce qu'il faut que là, les ingénieurs, tu sais, se retrouvent dans une grande salle en disant « Allez, on y va, le Wi-Fi 7, ça y est, on l'a trouvé, c'est bon, ça fonctionne. » Là, la puce est déjà prête. Ça sortira en théorie dans les smartphones de modèle 2023 haut de gamme.
Ah donc oui, donc on y est presque.
Que le Galaxy S23
ouais, c'est ça.
Et cette puce Wi-Fi.
On y est presque, effectivement. Non, c'était intéressant. Alors moi, il y a une autre annonce de Qualcomm, donc toujours dans le communiqué. T'as raison, ils ont fait un long communiqué. C'était sur le Bluetooth. Moi, j'ai un gros problème avec le Bluetooth. À chaque fois, je dois être maudit, mais je galère à appairer mes appareils. Ou alors, est-ce qu'on est tous pareils ? Je sais pas. Dites-nous. Hein. Franchement, une fois sur deux, ça marche pas, ça reconnaît pas. Peut-être que ta batterie était un peu trop déchargée.
Et puis dès que t'as deux téléphones. Dès que t'as une tablette, ça se connecte toujours au mauvais, tu sais.
C'est clair. Et là, alors, ils ont annoncé donc, une nouvelle génération de Bluetooth qui permettrait un appairage deux fois plus rapide, nous disent-ils. Donc, pas mal. Ça, c'est plutôt intéressant. Deux fois moins consommateur d'énergie aussi, parce que c'est vrai que le Bluetooth, ça pompe pas mal sur les, sur les ressources. Moi, j'utilise par exemple, j'ai une montre GPS moi, pour la course. Donc, tu utilises le GPS et tu utilises le Bluetooth pour écouter de la musique directement. Bah, alors là, tu vas courir, tu reviens, la montre, elle est quasiment morte. Donc, ça, c'est un truc qui peut aussi être un bon argument commercial. Et puis, ça permettrait aussi d'écouter de la musique en qualité CD dans les écouteurs.
Ah oui,
qualité
puisque,
CD, donc voilà. Ce serait mieux,
aujourd'hui,
moins compressé.
Le Bluetooth a cette particularité de compresser, de recompresser le son.
Exactement.
Parce que sa bande passante n'est pas énorme, etc. Donc, tout ça, effectivement, va évoluer. Il y a un autre produit coup de cœur que moi, j'ai trouvé intéressant, puisqu'on est dans le Bluetooth. C'est, en fait, de nouveaux intra-auriculaires que Honor vient de sortir. Alors, Honor, on ne les connaît pas beaucoup. Hein. Ce n'est pas des ténors de la tech, c'est pas les Sony, c'est pas les Bose ou les...
Ils montent pas mal en puissance quand même sur les smartphones en France.
Ils montent en puissance, ouais. En effet. Mais c'est vrai qu'on les connaît pas trop sur les accessoires,
ouais,
en quelque
vrai.
Sorte. Et là, ils ont sorti donc des intra-auriculaires avec une particularité, tu l'as vu sans doute.
Ouais.
En mettant tes intras, eh bien, tu as ta température corporelle.
Pas mal. On les met dans l'oreille, hein, je précise.
C'est ça, oui, bien sûr.
Bref, on fait ce qu'on veut après, mais normalement, c'est ça. Mais ouais, ben, oui. C'est hyper intéressant, je trouve, au-delà de cette fonctionnalité simplement, mais je pense qu'il y a un mouvement de fond, c'est-à-dire que l'idée que tous les accessoires connectés au smartphone vont se transformer en accessoires liés à la santé. Probablement parce que aussi le Covid est passé par là, et que donc les constructeurs, les fabricants ont compris qu'il y avait aussi un créneau à occuper. Mais je ne sais pas si tu te souviens, et je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission il y a quelques mois, quelques semaines, il y avait eu des rumeurs dans le Wall Street Journal comme quoi Apple préparerait des AirPods, future génération d'AirPods, qui auraient aussi des capteurs de température, qui permettraient de prendre la température.
Donc la techno existe
et tout le monde est en train de travailler sur ce côté-là. Et d'ailleurs, Apple ne voulait pas s'arrêter. Alors, on parlait d'Honor, on va rester sur Honor, mais juste pour dire, Apple imaginait aussi intégrer, par exemple, des capteurs de posture pour savoir si tu te tiens bien pendant la journée, enfin, ce genre de choses. Et donc, c'est très intéressant qu'Honor fasse ça, parce que je pense qu'il y a vraiment cette logique de transformer finalement nos accessoires de connectés en une sorte de cocon médical, d'assistants médicaux qui vont nous accompagner tout au long de la journée, que ce soit les écouteurs, les montres évidemment avec l'électrocardiogramme embarqué, demain peut-être des capteurs pour la glycémie, et puis les smartphones hein, qui sont maintenant, par exemple sur les pixels de Google, on peut analyser son amplitude respiratoire, son rythme cardiaque, on met son doigt sur la caméra, on a le rythme cardiaque qui ressort. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont en train d'arriver. Je trouve que c'est une tendance de fond, vraiment, la santé connectée.
Ouais, et puis surtout, ce qu'il y a de formidable, c'est que tous ces outils, on les oublie finalement. En mettant ces oreillettes parce qu'on écoute la musique, parce qu'on veut s'isoler, etc., on aura des composants de santé à divers moments de la journée.
C'est ça.
Et ça, c'est formidable quand
après,
même.
Après, moi, la petite limite, mais c'est mon côté hypochondriaque qui parle, mais je pense qu'on va créer des générations d'hypochondriaques aussi.
Sûr,
c'est-à-dire que
sûr.
Ce côté de.
Il faut pas céder à la psychose.
Mais ouais, se monitorer tout le temps. Tu vas te faire enguirlander par tes écouteurs parce que t'as 37,4 et pas 37,2.
Enfin, après, c'est les algos qui feront la différence.
Aussi.
Il faut qu'ils soient assez intelligents pour avoir une espèce de plage,
exactement.
On va dire, de tolérance en quelque sorte.
Ouais, et puis il faut aussi, ça dépend aussi du niveau de précision des trucs. Parce que là, je reviens encore à ma petite personne, pardon, vous allez dire que je suis complètement égocentrique, mais par exemple, pareil avec les montres connectées, tu vois effectivement ton rythme cardiaque pendant que tu marches, pendant que tu cours. Mais sauf que des fois, la montre, elle bug, c'est-à-dire le capteur cardiaque, des fois, il y a des trucs qui te disent, c'est juste pas possible, ou alors sinon, je devrais être mort, tu vois. Et là, tu te dis, mais attends, mais c'est quoi, faut que j'aille à l'hôpital ou c'est le capteur qui bug. Donc la raison l'emporte parfois en disant non, probablement la
cœur bat puisque je pense.
Oui, voilà, c'est ça. Mais cela dit, je dis ça en rigolant, mais il y a aussi des gens dont la vie a été sauvée parce que leur montre leur a dit qu'ils avaient probablement un problème cardiaque alors qu'ils se sentaient bien, et en allant à l'hôpital, ils se sont rendus compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas bien. Donc, j'ai toujours du mal avec ça, moi. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis tenté d'avoir de plus en plus de trackers, de les utiliser parce que j'aime bien ça, mais j'ai peur de renforcer le côté hypochondriaque qui est en moi, et je pense qu'on est tous devenus un petit peu hypochondriaques là, ces derniers mois à cause d'un petit truc qui s'est passé dans notre vie à tous.
C'est vrai. Mais on se rend compte que voilà, mesurer la température corporelle, ça a du sens. Et il faut savoir que l'oreille est un endroit très sensible, hein, puisqu'on le sait, hein, souvent on prend la température des enfants en mettant un petit capteur dans l'oreille.
Exactement.
Donc c'est assez intéressant, c'est plutôt malin. Tu parlais d'Apple, ce que je trouve aussi de formidable, c'est que d'après ce que j'ai compris, ils imaginent aussi des AirPods comme aide auditive.
Ouais.
Je ne sais pas si tu avais suivi ça, alors on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ce tabou d'avoir des oreillettes, enfin d'avoir des aides auditives, on se dit voilà, voilà, on appuie sur la vieillesse, enfin sur pas mal de on va dire, de critères de vieillesse en quelque sorte.
Bien sûr.
Et bien là, Apple va prendre le contre-pied et inventer, visiblement, d'après ce que j'ai cru comprendre, eh bien des AirPods pour les personnes qui entendent mal.
Ils vont nous donner envie d'avoir des aides auditives.
C'est ça.
Les vrais fans Apple auront une aide auditive Apple.
Mais oui.
Non, mais c'est ça. Mais tu as raison.
Tu vois que c'est aujourd'hui un objet de mode. Hein,
ouais, absolument.
Les AirPods, c'est assez intéressant.
Tout à fait. Mais c'est vrai que les aides auditives sont devenues de plus en plus connectées,
de plus en plus discrètes aussi.
C'est
incroyable.
Vraiment rédhibitoire. Enfin, je veux dire que la personne qui avait une aide auditive il y a encore 10 ou 15 ans, c'était un truc que ça se voyait de loin. C'était très. C'était un peu comme les lunettes à une époque d'ailleurs, et qui se sont transformées au fil du temps en accessoires de mode. On peut imaginer qu'avec, notamment avec Apple, ça se transforme aussi en accessoires de. Pourquoi pas de désir, on ne sait pas.
Exactement. Dernier petite escapade à Barcelone au Mobile World Congress, c'était en fait l'explosion du marché du PC. Alors, on l'a tous vécu ici, on en parle souvent. Il y a eu l'avant Covid et puis l'après Covid où on a tous été obligés de s'équiper,
bien sûr,
à la fois au travail mais surtout à la maison, télétravail, etc., etc. On se rendait compte qu'on avait une machine qui était un peu lente, pas une bonne caméra, pas de bon haut-parleur, de bon micro, et évidemment ça représente une manne de business pour les constructeurs de PC phénoménale.
C'est énorme.
Les Acer, les Asus, les HP, les Dell se gavent en ce moment, hein, ça marche très bien, mais ça donne envie aussi à d'autres constructeurs qui n'étaient pas forcément dans ce milieu là eh bien, ou à se lancer sur ce marché ou à se relancer sur ce marché.
Par exemple, Samsung. Alors, Samsung qui n'était plus sur le marché des PC portables en France, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, ils s'étaient arrêtés. Alors,
voilà.
Ils avaient arrêté le marché français.
C'est ça.
Ça existait toujours dans d'autres pays, aux États-Unis notamment. Mais là, ils reviennent sur le marché français.
Et encore plus que ça, moi, ce qui m'a frappé, c'était plus Nokia. Alors, pour le coup, qu'on n'attendait pas forcément là-dessus. Parce que Nokia, bon, c'est une marque mythique, mais du passé et plutôt sur la téléphonie mobile et équipementier réseau, évidemment. Et qui, lui aussi, va se lancer sur une gamme de PC. Donc, je ne sais pas si on pourra jouer au Snake dessus. J'espère.
Ça serait drôle.
Ça serait génial.
J'espère qu'il sera assez puissant.
Qu'il sera.
Bon, là, je suis un peu mauvais.
Oh, écoute. Non, mais en même temps, on en rigole, mais ils jouent aussi sur ce côté rétro, vintage. Ils ont ressorti leur vieux téléphone. Bon, là, je pense pas évidemment qu'ils feront ça avec les PC. Mais tu as raison. Je pense que tous ont compris qu'il y avait une manne énorme parce qu'on s'est tous équipés. Alors, il y a beaucoup d'entreprises, hein, d'ailleurs, parce qu'elles ont dû mettre en marche le télétravail, parfois à marche forcée. Il y a eu d'ailleurs, alors c'est plus le cas maintenant, mais au début de la crise sanitaire, des grosses pénuries. Il a fallu s'équiper très, très, très rapidement. Les gens se sont équipés à la maison pour le télétravail, PC fixe, parfois un deuxième écran, l'ordinateur portable. Donc clairement, là, avec le télétravail, qui évidemment est un phénomène qui est là pour rester, c'est évident, eh bien, on va avoir besoin de plus en plus de PC. Donc c'est assez logique finalement qu'il y ait ces marques qui se lancent.
Voilà, Nokia qui a fait appel à un assembleur français, c'est ça qui est assez intéressant. Oui. Donc voilà, un peu de cocorico dans les PC Nokia qui arriveront là, je crois, d'ici la fin de l'année, à des tarifs assez agressifs en plus. Voilà pour le Mobile World Congress, si vous voulez en
savoir. J'avais un petit chouchou moi aussi pour le Mobile World Congress.
Ah oui, la charge rapide.
Mais oui,
attends. Mais bien sûr.
Mais attends, c'est génial. C'est, alors,
tu as raison, c'est très intéressant.
Bah, c'est devenu aussi un champ de bataille pour les fabricants de smartphones, c'est-à-dire pour se différencier aujourd'hui, il faut avoir la batterie qui se recharge le plus rapidement. C'est vrai que c'est l'éternel problème. Ça reste le point faible des smartphones aujourd'hui, l'autonomie, la batterie. On a déjà des systèmes de recharge rapide à peu près chez toutes les marques. Les Chinois sont assez en pointe sur le sujet. Aujourd'hui, avec les très bons smartphones, on a une recharge complète en une demi-heure environ, ce qui est déjà pas mal hein, par rapport à il y a quelques années. Et là, il y a eu deux annonces. Alors, c'est Oppo et Realme, mais c'est des marques cousines. Hein.
Oui.
Premier smartphone qui va sortir commercialement, c'est-à-dire c'est pas juste des prototypes comme on en voyait au Mobile World Congress depuis des années.
Oui, sous cloche, qui sortent ou qui sortent jamais.
Là, celui-ci va sortir et donc c'est smartphone recharge complète en 15 minutes chrono.
Waouh.
Pas mal. 15 minutes chrono, sachant que la promesse, c'est que la batterie ne s'abîme pas ou s'abîme peu, c'est-à-dire qu'au bout de 1000 charges, tu perds 20% de capacité, à peu près. Ce qui est vraiment pas mal. Alors encore une fois, c'est les annonces, il faudra tester dans les labos, voir un peu ce que ça donne en vrai. Sur le papier, c'est pas mal. Et l'autre, qui est encore plus impressionnante, mais là, pour le coup, ça reste un prototype, c'est recharge à 50% en 3 minutes et demie.
Waouh.
Et 9 minutes recharge complète. Là, c'est pas mal. Tu vas prendre un café avec un collègue, tu reviens, ton téléphone est chargé.
C'est-à-dire que, par exemple, le matin, tu te lèves, tu as oublié de charger ton téléphone, ce qui nous arrive à tous, et là, on commence à stresser. Hein. Tu vas te laver les dents, ton téléphone, il est à 50%. Quoi.
Exactement. Donc ça, pour moi, c'est une vraie avancée. Tu vois, sur les smartphones, c'est vrai que la bataille, elle se fait sur les appareils photos, sur l'écran. On voit bien que les choses avancent toujours, mais si tu veux, je pense que moi, c'est plus ce genre de choses que je regarde aujourd'hui, en fait.
C'est intéressant parce que tu te rends compte que ça appuie là où ça fait mal aussi, c'est que finalement, on n'arrive pas à améliorer l'autonomie véritablement des smartphones aujourd'hui. Oh. Et c'est plus sur la vitesse de recharge que sur l'allongement de l'autonomie qu'on arrive à trouver des innovations.
Ouais. Alors, ils travaillent aussi sur l'allongement de l'autonomie. En fait, je trouve que en tant que consommateur, on est un petit peu ingrat de ce point de vue-là, parce qu'il y a eu une amélioration de fait.
On sait
bien que les smartphones, ils sont de plus en plus gourmands aussi en ressources. On a des processeurs qui sont plus puissants, on a des écrans incroyables, donc on va regarder des vidéos.
Bien sûr, plus de connectivité, plus de notifications.
Donc effectivement, l'autonomie, elle augmente pas énormément. Ça va être quoi, 24 heures. Enfin, ça dépend de l'usage qu'on en a, mais voilà. Et c'est ça depuis des années. Mais les smartphones sont de plus en plus puissants. Donc c'est-à-dire que la batterie, c'est quand même améliorée d'une manière ou d'une autre. Là où il va y avoir des progrès, il y a beaucoup de. Alors, c'est des équipes de recherche pour l'instant, mais qui travaillent sur des batteries. Alors non plus lithium-ion, mais lithium-soufre, qui est une technologie qui est hyper intéressante parce que pour le coup, ça permet d'avoir des téléphones qui pourraient par exemple durer 5 jours en charge.
Waouh! 5 jours?
Ouais, 5 jours. Enfin, la promesse sur le papier, ce serait 5 jours, mais c'est très compliqué à maîtriser parce que pour le coup, au bout de quelques charges, ces batteries s'abîment très très vite. Donc il faut trouver le Graal. Pas mal. C'est pas mal.
Non, mais
elle est validée.
Il y avait un zéro, là on est un partout.
On est un partout. Et donc, effectivement, il va falloir trouver le Graal pour faire en sorte que ces batteries ne se détériorent pas trop vite. Mais en tout cas, potentiellement, ça pourrait se développer dans les années qui viennent aussi.
Voilà pour le Mobile World Congress. L'actualité, bien sûr, que l'on vit tous sur les chaînes d'infos, sur tous les écrans, c'est bien évidemment le conflit Ukraine-Russie. Alors, Anthony, tu en parles souvent sur BFM Business parce que, bien sûr, le numérique est au cœur, en fait, de cette guerre, en quelque sorte, hein, de
Absolument.
Ces attaques. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ça part dans tous les sens. Les câbles sous-marins que tu évoquais, les géants de l'Internet américain qui sont sommés d'arrêter certains services en Russie.
C'est pour ça qu'on voulait vous en parler, parce que c'est vrai que vous allez peut-être vous dire, j'écoute un podcast tech, c'est pas pour avoir toute l'Ukraine qu'on a sur les chaînes info toute la journée, mais là, c'est vraiment un cas d'école où l'actualité tech s'entrechoque avec l'actualité plus générale, parce qu'il y a vraiment des enjeux technologiques très importants au cœur de tout ça, et c'est intéressant de voir qu'effectivement, les géants technologiques, là, ont été sommés, finalement, de choisir un camp. Ce qui était probablement jamais arrivé, ou en tout cas, j'ai pas souvenir dans cette mesure-là, de toute façon, parce qu'on a vu que, sous la pression à la fois de l'opinion publique, des autorités américaines aussi, et à la demande de l'Ukraine, du gouvernement ukrainien, eh bien, on a vu, par exemple, Facebook, Twitter, YouTube commencer à démonétiser puis déréférencer les chaînes russes et les outils de propagande russes. Ça, c'était une première chose. Mais on a vu aussi Apple, par exemple, arrêter ses exportations vers la Russie et arrêter ses ventes. C'est-à-dire que jusqu'à épuisement des stocks, on ne pourra plus acheter théoriquement un iPhone en Russie. Que Netflix aussi, alors ils n'ont pas arrêté leur service, mais ils ont arrêté de produire des séries, il y avait plusieurs séries en production en Russie, ils ont dit on stoppe.
Enfin, ça allait plus loin Netflix, excuse-moi je te coupe, mais tu as vu en fait la Russie, parce que la Russie exige parfois des choses à ces géants américains pour s'installer dans leur pays. Ouais. Et Netflix s'est retrouvé avec l'obligation de diffuser sur Netflix, ce qui n'existe pas dans aucun pays, des chaînes russes,
ouais, c'est ça.
Et certaines qui ne se gênaient pas de propager des messages de propagande,
bien
justement,
ouais,
ou de
sûr,
désinformation. Et c'est quand même incroyable. Et donc Netflix a refusé.
Ouais, ils ont dit non.
Ils ont dit non. Alors pour l'instant, je ne sais pas quelles vont être les conséquences. Peut-être que la Russie va couper Netflix.
C'est possible aussi. Alors ça, c'est aussi un élément qui est très intéressant parce que, en fait, il y a beaucoup de... C'est le vice-premier ministre ukrainien qui est très technophile, qui a appelé un par un via les réseaux sociaux tous les géants de la tech à réagir, à bannir la Russie. Il a fait envoyer un message à Tim Cook, il a envoyé un message à Elon Musk, et on comprend que l'idée, la stratégie derrière, c'est de faire de la Russie, de tenter de faire de la Russie une sorte de paria numérique, de les exclure finalement de tous les services et les appareils auxquels nous on a accès. Mais c'est peut-être sous-estimer un peu vite la capacité de la Russie justement à vivre, peut-être pas en autarcie, mais en tout cas à avoir elle-même
quasi autonomie.
Mais oui, parce que la Russie, ils ont leur propre Facebook, VK, qui est plus puissant que Facebook en Russie. Ils ont Yandex, qui est leur Google. Ils ont même leur propre réseau souverain, qui s'appelle Runet, qui est une sorte d'internet parallèle. Donc, ils ont en tout cas plus de résilience, on va dire, face à ce genre de menaces que la grande majorité des autres pays, si ce n'est la Chine peut-être, qui est elle carrément son internet parallèle,
d'accord. Mais l'internet mondial pourrait s'arrêter, la Chine pourrait continuer à vivre sans problème.
Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce rapport de force là qui est en train de s'engager et les géants de la tech, dont on dit souvent qu'ils sont aussi puissants que des États, être obligés de prendre position et être un peu embarrassés pour le faire aussi.
Alors la conséquence, c'est Facebook par exemple ou Google qui démonétise en fait tous les médias russes qui ne peuvent plus gagner d'argent avec les vidéos qu'ils postent sur leur service.
C'est ça, ils ont supprimé toute la monétisation de RT, ils ont supprimé aussi, c'est là que c'est aussi délicat parce que ils ont mis en place des systèmes, je crois que c'est chez Facebook, c'est une cellule de crise ou de modération spéciale qui est chargée d'aller détecter propagande, fake news. Alors c'est toujours pareil, c'est compliqué parce que dès que tu mets de l'humain là-dedans, qu'est-ce qui est de la propagande ou qu'est-ce qui est, enfin tu vois, que la Russie informe, enfin tu vois, c'est compliqué, ça, il y a forcément des biais, c'est une matière qui est pas mettable, on peut pas mettre ça dans un algorithme et puis le laisser se débrouiller tout seul, donc on voit que ça crée aussi un certain nombre de questions,
d'une manière générale c'est le problème de la modération.
C'est évident,
on balance ce mot comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe qu'un seul mot.
Et d'autant que là tu as aussi alors c'est intéressant, là il y a toute une histoire qui a été sortie par NBC, la chaîne américaine, où on se rend compte qu'il y a des ce qu'on appelle des usines à trolls qui sont utilisées par plein de pays, notamment par la Russie. Donc des internautes qui sont payés pour en gros balancer des fake news, enfin essayer d'influencer l'opinion via des faux profils créés sur les réseaux sociaux. Et donc ils ont supprimé des dizaines de profils sur Facebook et sur Twitter où c'était soi-disant des Ukrainiens, mais en fait c'était pas du tout des vraies personnes et qui étaient très hostiles au gouvernement en place ukrainien. Et en fait là où ils poussaient le truc très très loin, c'est qu'ils ont créé des profils avec des images de profils qui sont en fait des visages générés aléatoirement par une intelligence artificielle. C'est-à-dire que tu vois la la figure du gars, tu vois tout ce qu'il écrit, et en fait, ce mec
n'existe pas.
Et même son visage ne correspond à aucun être humain qui existe sur Terre. C'est-à-dire, on est capable de créer des humains composites, finalement.
Bien sûr.
Donc voilà, d'aller très très loin dans, dans la désinformation. On parle de la Russie parce que le focus est sur eux en ce moment. Il ne faut pas se faire d'illusions sur le fait que toutes les grandes puissances utilisent ce genre d'outils.
En effet. Tiens, ce qui est intéressant, tu parlais de désinformation. Après, justement, ce serrage de vis de la part des réseaux sociaux, tu as peut-être suivi ça. Même Google Maps a été obligé, en fait, de réduire l'interaction que pouvaient avoir les internautes avec leur service, notamment en Ukraine et en Russie. Ouais. Parce que ce qui se passait, c'est que, par exemple, tu sais, il y a des restos, tu peux laisser un commentaire dessous. Eh bien, il y avait des gens qui laissaient des messages de propagande sous les commentaires des restos.
Ah oui, sur Google Maps. Ouais.
Pour communiquer malgré
tout.
Il y avait aussi des géolocalisations de bombardements qui étaient faites sur Google Maps.
Ah ouais.
Plan a été aussi obligé de désactiver en fait tous ces services. Regarde jusqu'où ça peut aller.
Ça va très loin.
C'est incroyable.
J'ai vu ça passer vite fait. Donc, pardon pour la vérification là, mais c'est ce que Tinder aussi avait des soldats russes qui trouvaient des Ukrainiennes sur Tinder et donc ça permettait de géolocaliser les soldats russes. Donc
incroyable.
Ça pouvait poser un problème stratégique aussi. Tu vois. Enfin, les implications de l'utilisation de ces outils tech qu'on utilise dans la vie de tous les jours, bah finalement, elle est énorme.
Un mot aussi sur les câbles sous-marins, parce que je sais que tu en as parlé sur BFM Business, c'est un sujet qui est passionnant.
Ouais.
Il faut savoir que, et là tu en sais plus que moi, mais je crois que c'est 97% du trafic internet mondial passe sous les câbles.
Mais bien sûr.
Dans des câbles qui sont sous les mers.
Et qui en fait relient les continents les uns aux autres. Effectivement, la crainte, ou en tout cas un scénario qui pourrait être envisagé, ce serait la coupure d'un de ces câbles, parce qu'ils sont très fragiles, il faut le savoir. Ils sont sous l'eau, ils sont parfois arrachés par des chalutiers, par exemple. Or, c'est la colonne vertébrale. Alors, peut-être que le terme est un peu inapproprié, parce que quand on dit colonne vertébrale, on se dit, si on coupe un câble, tout est mort, alors que là, c'est plus une sorte de réseau veineux, parce qu'il y en a 420 en tout, pour une longueur totale de plus d'un million de kilomètres. Donc, il faut se rendre compte. Quand je dis des câbles, c'est quoi? En fait, ce sont des fils de fibre optique.
Celles qui arrivent à la maison, en fait.
Exactement. C'est fin comme un cheveu, donc elles sont tressées. Ouais. J'avais été visiter une usine, c'est absolument incroyable.
Ah, c'est
Alcatel à l'époque. C'est vraiment fou.
Et on a un vrai savoir-faire, alors petite parenthèse, on a un vrai savoir-faire sur la fabrication de ces câbles et sur le fait de les poser.
Exactement, parce qu'il faut des navires spéciaux qui vont aller déposer ces câbles, donc qui sont très très fins, mais ensuite qui sont protégés évidemment. Alors il y a du cuivre, du caoutchouc, c'est tout un savoir-faire évidemment, et on va poser ça au fond des océans, mais effectivement c'est ce qui permet de relier, de nous relier à Internet. Et donc si on coupe, s'il y a un grand coup de ciseau, ça peut être problématique. Ce qui fait penser que la Russie pourrait penser à ce genre de scénario, c'est que quelques jours et quelques mois, alors il y a eu plusieurs fois avant le conflit, on a repéré des bateaux espions russes au large des côtes de l'Irlande, à l'endroit pile où se trouvent ces câbles, en gros, pile à cet endroit-là. Donc on se dit, c'est un peu bizarre, voilà, peut-être qu'il y a des velléités. Alors après, quelles seraient les conséquences réelles s'ils prenaient... Alors là, pour le coup, ce serait un acte de guerre contre le monde entier, parce que là, c'est violent. C'était M. Villemin, le directeur que tu connais,
Jean-Luc Villemin,
des réseaux internationaux d'Orange, qui disait qu'en gros, en cas de coupure, c'est l'Internet européen qui tombe. Alors je ne sais pas dans quelle mesure, j'imagine qu'il y a des systèmes de résilience et que si on coupe un câble, tout ne va pas tomber en même temps. Mais il y aurait probablement une dégradation. Je me souviens quand... Alors, c'était en 2007, peut-être que ça s'est amélioré depuis. Au Vietnam, tu as un navire de pêcheurs qui avait arraché un câble. Alors, eux, ils l'avaient fait volontairement parce que c'était pour prendre... Je ne sais plus si c'était pour voler du cuivre ou en tout cas des composants. Et en fait, le pays s'est retrouvé coupé, enfin sa connectivité a décliné de l'ordre de 90% pendant des jours, voire pendant des semaines. Donc c'est quand même pas rien. Peut-être que le Vietnam était moins raccordé que ne peuvent l'être les pays occidentaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie des scénarios. Tu vois, quand on parle d'escalade, de dissuasion nucléaire, etc., là, ça fait partie aussi des armes à la disposition des États aujourd'hui. C'est des infrastructures stratégiques.
Tout à fait. Et tu parlais de Jean-Luc Villemin, qui est le spécialiste de ce sujet chez Orange, mais en France d'ailleurs, puisque Orange est le seul en fait, prestataire qui pose ces câbles. Nous expliquait qu'en fait, il y avait aujourd'hui une espèce de redondance, c'est-à-dire que le trafic Internet explose tellement qu'un câble ne suffit pas. Il faut savoir que même Google pose ses câbles maintenant, Facebook aussi. Et en fait, si tu prends par exemple les US et l'Atlantique, tu as plein d'endroits où passent des câbles. Il n'y a pas que au nord de l'Irlande ou à l'ouest de l'Irlande. Il y en a
du côté du Brésil. Pour ceux qui nous regardent, effectivement, voilà, c'est un maillage.
Voilà. C'est un maillage, ce qui fait que pour couper en fait Internet au niveau mondial, il faudrait en fait une organisation de dingue. Il faudrait couper tous ces câbles un par un.
Plusieurs câbles. Voilà. Mais ils ont plusieurs bateaux, les Russes.
Oui, mais je pense que malgré tout, ça serait, et puis ça serait visible un peu quand même aujourd'hui.
Ah bah oui, là je pense que ça passerait pas inaperçu, c'est évident.
Etc.
Mais tu sais, c'est intéressant de voir aussi, je te disais que l'Ukraine faisait appel aux géants de la tech, tu as vu qu'ils ont fait appel à Elon Musk en leur demandant de déployer Starlink.
Tout à fait.
Mais c'était aussi dans la crainte d'un blackout Internet. Hein. Ils ont demandé donc Starlink, donc le réseau de satellites qui achemine Internet, parce que c'est une solution de backup en fait, c'est une solution de repli Internet par satellite, si les fils sont coupés ou si voilà s'il y a une menace. Aujourd'hui c'est une toute petite quantité du niveau de connexion mondiale qui passe par les satellites, hein. Le gros ça passe quand même par ces câbles souterrains, mais ça peut Starlink pourrait être une solution de secours en cas de problème.
Voilà, et Elon Musk qui a livré, parce que c'est bien beau d'avoir Starlink, mais il faut les appareils, il faut en fait des récepteurs avec des petites paraboles, et Elon Musk en a envoyé des exemplaires en fait en Ukraine, pour que justement les gens puissent se connecter. Et bien voilà, bon évidemment on pourrait évoquer aussi tout ce qui est cybersécurité, hein, parce que toutes ces menaces qui gravitent autour de ce conflit. Hein,
bien sûr, ça fait partie là aussi des armes à la disposition de la Russie. Et encore une fois, c'est pas pour jeter l'opprobre sur un pays. On sait bien que tous les pays, toutes les grandes puissances aujourd'hui ont des cyberarmées.
C'est une situation
particulière, évidemment, hein, mais toutes les grandes puissances ont des cyberarmées maintenant avec des hackers extrêmement sophistiqués.
Heureusement d'ailleurs.
Heureusement, ne serait-ce que pour se défendre. Voilà. Après, les capacités offensives, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que là aussi, la Russie a un passif. On se souvient de NotPetya, par exemple. Hein, on avait beaucoup parlé en 2017. Alors c'est vrai qu'une actu chasse l'autre, on oublie vite. Même s'il n'y a pas de preuves, hein, mais la Russie est fortement soupçonnée d'être à l'origine de cette attaque qui avait été quand même la plus coûteuse de l'histoire. C'était cette attaque qui avait quand même mis à bas, il y avait des ports de marchandises qui s'étaient retrouvés bloqués, il y avait des usines qui ne fonctionnaient plus, des entreprises où on a dû revenir au stylo et au papier parce que tout était... c'est pas rien, c'est-à-dire que les attaques informatiques, c'est pas juste de l'extorsion de fonds ou de la destruction de données, ce qui peut arriver. Ça peut aussi être des attaques sur des infrastructures, voire des infrastructures critiques, centrales électriques, retraitement des eaux... le réseau de transport. Donc forcément, espionnage. Et donc le ministère de l'Intérieur, là, a demandé au préfet, par exemple, de ne pas trop bouger, de rester dans leur département au cas où il y aurait une cyberattaque, pour être sur la défensive. Et les entreprises sont obligées de se remettre un petit peu sur le pied de guerre, de préparer... Moi, je discutais avec le responsable sécurité informatique d'un grand groupe de transport aérien qui me disait que là, il voyait quand même des signaux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des anomalies, un nombre... anormal de tentatives d'intrusion par rapport à des jours normaux, on va dire, ces derniers temps, dont l'origine laissait assez peu de doutes. Donc voilà, ça fait partie aussi, effectivement, des armes aussi, hein, la cyberguerre. Voilà, la guerre, ça se passe sur le terrain, évidemment, mais ça se passe aussi dans le cyberespace.
Merci beaucoup Anthony, passionnant tout ça, hein. L'actualité qui est très très riche actuellement, et on en parle bien évidemment dans ce rendez-vous qu'on vous propose tous les week-ends de Quoi Je Me Mêle. Merci Anthony.
Merci François, merci à tous.
On se retrouve sur BFM Business et évidemment tous les jours sur RMC. Vous restez avec nous. Tiens, tu fais beaucoup de sport, j'imagine que tu as des bracelets connectés, des montres.
Moi je suis montre.
Monitorer tout ça. On va recevoir dans un instant un acteur que tu connais sans doute bien, il s'agit de Fitbit.
Bien sûr.
Racheté par Google, je crois, en 2019. Voilà, quelles sont les nouveautés de Fitbit ? Il y a notamment une étude très intéressante sur le sommeil, parce que tu sais qu'aujourd'hui, avec ces bracelets, on arrive à mesurer le sommeil, et visiblement, l'étude qui a été donc commandée par Fitbit prouve qu'on dort de moins en moins bien avec le stress, avec tout ce qui se passe actuellement. On va en parler dans un instant avec mon invité, porte-parole de Fitbit France. À tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle. Vous le savez, on est là chaque week-end un peu partout sur tous vos écrans, sur l'appli BFM Business, l'appli 01net.com, sur l'appli RMC aussi, en audio, en vidéo. Et je vous propose maintenant de nous intéresser à notre santé. Vous savez qu'aujourd'hui, il existe différents moyens pour mesurer certains comment dirais-je, oui, certaines composantes de notre santé, hein, fréquence cardiaque, évidemment température et d'autres. Beaucoup d'acteurs se sont positionnés sur ce sujet. On va en découvrir un maintenant, un historique, puisqu'il s'agit de Fitbit. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Jeanne Tassel. Bonjour Jeanne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la responsable marketing France de Fitbit. Fitbit, donc, qui depuis de très nombreuses années, hein, je suis allé voir un petit peu sur votre Wikipédia, on remonte à 2007.
Tout à fait.
Les premiers capteurs.
Les premiers bracelets, les premiers trackers qui calculaient le nombre de pas.
C'est ça. C'est comme ça que tout a commencé, en fait.
Tout à fait. Voilà. Fitbit est parti d'une petite start-up en 2007. Et ils ont évolué en développant de plus en plus à travers des algorithmes et des capteurs, des trackers et aujourd'hui une gamme de produits en smartwatch pour améliorer le bien-être et la santé des utilisateurs.
Voilà, et c'est un sujet pas du tout anodin, qui est très important parce que vous allez nous l'expliquer tout à l'heure, on peut mesurer et grâce aux algorithmes, on peut avoir des données très très précises sur l'évolution de notre santé, sur certains points. Même si ce ne sont pas des produits médicaux, on est d'accord, hein, parce qu'il faut faire vraiment le distinguo, hein, ce sont des produits...
apportons des indicateurs sur la santé d'un utilisateur qui, lui, ensuite, à travers des rapports, vont pouvoir permettre à un médecin de pouvoir analyser à un instant T un niveau de sommeil, un niveau de stress, une activité physique,
etc. Et après, faire d'autres examens qui,
seront bien plus poussés,
médicaux,
exactement.
Pour conforter, évidemment, ce que vous avez pu détecter avec vos appareils.
Exactement.
Donc, Fitbit, je le disais, depuis 2007, qui évolue, qui devient un acteur majeur aujourd'hui dans ce segment. 2019, le rachat par Google.
Oui.
Voilà, plus de 2 milliards que Google a mis sur la table pour acheter Fitbit.
Tout à fait.
C'est intéressant. La stratégie de Google, dans ce cas, c'est quoi? C'est d'accélérer justement sur la santé, forcément.
Oui, nous donner des moyens pour être plus en plus performants, d'avoir les meilleurs capteurs au monde, des algorithmes les plus puissants, pour pouvoir permettre d'apporter des solutions et des indicateurs les plus précis à nos consommateurs.
Oui. Ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est que Google conserve la marque Fitbit. On aurait pu imaginer que petit à petit, Fitbit disparaisse au profit de Google, mais non, Fitbit, la marque Fitbit continue d'exister toute seule.
Nous sommes aujourd'hui assez indépendants par rapport à Google. Aujourd'hui, nous avons fusionné, mais nous gardons notre marque Fitbit ainsi que nos produits et notre savoir-faire dans le domaine du sport et de la santé.
Très bien. Pour rebondir à l'actualité, Jeanne, c'est tombé là il y a quelques heures. Petit problème avec certains bracelets Fitbit.
Oui, les montres ioniques qui sont spécialisées sur le sport, qui ont été créées en 2017. On a arrêté la production en 2020. Et nous sommes aperçus, notamment aux États-Unis, que certaines batteries pouvaient chauffer. Aujourd'hui, ça représente 0,01% des produits aux États-Unis.
Le problème, c'est que quand ils chauffent, évidemment, ils sont en contact avec
la peau.
Ça peut provoquer des brûlures, parfois sérieuses.
Tout à fait. C'est pour cette raison que Fitbit ne prend aucun risque et rappelle tous les produits ioniques. Nous remboursons tous les produits à nos utilisateurs. Nous préférons être proactifs parce que nous, aujourd'hui, en France, on n'a aucun cas. C'est vraiment une très, très rare...
Aucun cas pour l'instant.
Pour l'instant,
qui est remonté. Qu'aux US.
Aujourd'hui, qu'aux US, encore, c'est extrêmement rare.
Oui.
Mais Fitbit ne prend aucun risque et rappelle tous les produits et nous remboursons totalement.
Et je crois que ce rappel, quand même, est majeur. Hein. C'est 1 700 000 exemplaires de bracelets
tout à fait.
Qui vont être donc...
uniquement sur cette gamme de produits.
C'est fou.
Et donc, alors, ça arrive dans la tech.
Oui, ça arrive
et puis après,
souvent,
on ne connaît pas non plus les conditions d'utilisation de ces produits. Enfin... Voilà, il faut faire extrêmement attention.
Oui, ça peut être des conditions, peut-être, des températures qui sont... il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu dans les batteries. Ce qui fait que là, pour tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui ont un bracelet ionique, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui
n'est plus produit, mais qui existe en 2017, ils peuvent aller sur le site internet helps.fitbit.com/ionique. Pour alerter, se présenter et pouvoir bénéficier d'un remboursement total de son produit.
Voilà. En tout cas, vous avez été très proactif sur ce sujet. C'est tout à votre honneur et c'est plutôt bien. Surtout pour une boîte qui est sur le segment de la santé, c'est plutôt pas mal. On va jeter un œil quand même sur... On a plein de choses à se dire parce qu'il y a aussi une étude très intéressante sur le sommeil. On va y revenir dans un instant. Mais aujourd'hui, quelle est la différence entre un bracelet et une montre Fitbit, Est-ce qu'il y a les mêmes capteurs? Est-ce que finalement vous récoltez les mêmes données? Et quel type de données arrivez-vous aujourd'hui, grâce aux algos et aux capteurs sur vos bracelets et vos montres, à récupérer?
Alors, c'est vraiment deux cas d'usage qui sont très différents entre les tracteurs et les smartwatches. Les smartwatches, on a un écran qui est beaucoup plus grand. Entre les trackers qui sont beaucoup plus fins, là j'en ai une, ce qui est la dernière charge 5, qui moi me va mieux en termes d'ergonomie, si vous voulez. Donc ça dépend des usages. On a vraiment des usages qui sont extrêmement différents, des catégories de personnes qui sont très différentes. On a vraiment les smartwatches, ceux qui aiment les mondes connectés, et les trackers. Oui. Donc c'est deux cibles très différentes. Aujourd'hui, avec la charge 5, notre nouveauté, on a exactement les mêmes capteurs que sur une smartwatch. Donc nous, la dernière, c'est la Sense.
En fait, c'est presque un parti pris de design sur les derniers modèles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence.
En fait, c'est une terme d'ergonomie, voilà, sur une navigation en fait, et une expérience à travers un écran. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, l'écran est beaucoup plus petit qu'avec une Versa 3 ou une 16, par exemple. Donc c'est simplement en fait, un cas d'usage de l'utilisateur. En revanche, sur la charge 5, et c'est un des premiers trackers aujourd'hui, qui a intégré tous les capteurs d'une montre connectée.
Alors, justement, c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, avec vos capteurs et les algos qui sont développés, parce que les algos sont très, 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 très importants, vous arrivez à mesurer quel type de données santé?
Alors, nous pouvons proposer en fait, à l'utilisateur des indicateurs au niveau du sommeil. Nous avons aujourd'hui un savoir-faire et des retours sur les analyses du sommeil qui sont ultra poussés. L'activité physique, bien entendu.
Donc, fréquence cardiaque.
Fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, votre activité physique lorsque vous courez. Donc, c'est-à-dire que nous, on calcule, par exemple, en minutes en zone active. Parce qu'on va faire la différence entre quelqu'un qui marche doucement et quelqu'un qui court sur la même distance. Donc, vous n'allez pas procurer exactement la même intensité physique.
Bien sûr.
Donc, on l'a transformé en minutes en zone active. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à travers le OMS, il faut faire grosso modo 22 minutes en zone active par jour.
22 minutes en zone active, ça veut dire 22 minutes de marche rapide?
Oui, en fonction de votre capacité à vous. Donc, on n'a pas du tout, entre vous et moi, le même rythme cardiaque, par exemple. Donc, on ne va pas produire le même effort. Donc, moi, je vais peut-être devoir marcher plus vite et plus longtemps par rapport à vous.
Oui, parce qu'il y a plein de composantes qui rentrent là, c'est la musculature, le poids, enfin,
le
voilà,
poids,
la taille.
Le poids, homme, femme, l'âge.
Homme-femme aussi, bien
tout
évidemment.
Tout à fait. En fait, la capacité aujourd'hui de Fitbit, c'est vraiment d'apporter des indicateurs qui sont très personnels. Donc, à travers nos algorithmes, on a une masse d'algorithmes aujourd'hui de data, en fait, qu'on segmente en fonction, justement, des hommes, des femmes, de votre capacité à vous. Et on va corréler vos propres indicateurs à vous par rapport à une moyenne. Et c'est en ça qu'on va pouvoir donner un score de niveau de sommeil, votre niveau d'activité physique à la journée, ces minutes en zone active par exemple, le niveau de stress qui est très important aujourd'hui, on en reparlera après à travers l'étude, votre alimentation qu'on peut intégrer. Et donc tout ça est vraiment lié au cœur et au rythme cardiaque.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez sorti, il y a quelques jours de cela, une étude très intéressante au sujet des Français et du sommeil.
Tout à fait.
Et on se rend compte que la qualité de sommeil des femmes et des jeunes a baissé ces derniers temps.
Oui, alors lié évidemment à tous les facteurs qu'on peut connaître.
La pandémie,
une mauvaise alimentation,
la sédentarité. Mais oui.
Tout à fait, qui impacte énormément sur le sommeil.
Il faut dire que plus on fait du sport, enfin pas plus on fait du sport, mais si on a une activité physique régulière, on dort mieux.
Tout à fait. Oui, c'est extrêmement lié. Enfin, le sommeil, en fait, gère énormément de choses dans votre bien-être à vous, que ce soit sur la santé mentale, sur la santé physique, bien entendu, sur la mémoire, sur la façon de travailler. C'est extrêmement intéressant de s'intéresser au sommeil. Aujourd'hui, à travers donc, nos produits et aussi l'application Fitbit Premium, qui est l'application qui est liée à nos produits, on va pouvoir proposer, par exemple, sur le sommeil, des phases. Les phases dites les phases lentes, c'est-à-dire la première phase où vous allez commencer à vous endormir. Donc le rythme cardiaque est toujours très très basse, mais vos muscles sont encore un peu raidis. Il y a la phase paradoxale et la phase profonde. C'est là, en fait, vous allez récupérer. Ouais. C'est la phase où vous allez rêver. Vous allez vraiment récupérer, en fait, de votre journée.
Et c'est là où le cerveau se restructure. Enfin, voilà, il y a tout un processus.
Et c'est là où, en fait, le rythme cardiaque va plutôt s'intensifier, mais tous vos muscles vont baisser. Et c'est à travers cette analyse-là et par rapport à vous, par rapport en fait à votre vécu, à votre activité, à vous et à votre sommeil, on va pouvoir donner des indicateurs. Et on va donner un indicateur qui s'appelle le score de sommeil, qui est bon ou mauvais. Et à travers ça, on va aller vraiment sur des données qui sont très approfondies, sur le taux de récupération, sur si la SPO2, c'est-à-dire le taux d'oxygène dans le sang. Donc c'est-à-dire que si vous ronflez ou pas. Si vous avez
donc vous arrivez à détecter tout ça aussi.
Si vous êtes extrêmement agité.
Oui, parce qu'il y a des capteurs qui vont enregistrer le fait qu'on bouge beaucoup, par exemple.
Tout à fait. Et à partir de toutes ces informations-là, on va pouvoir vous donner et vous apporter un score. Et c'est à partir de ce score-là qu'on va pouvoir, à travers l'application Fitbit, vous apporter des solutions pour mieux dormir.
Jeanne, juste une petite question. Je me rends compte que j'ai un score qui n'est pas bon avec votre système. Est-ce que je peux aller voir un médecin pour lui dire, regardez, ça fait un mois que je ne dors pas bien, mon appli me le montre, etc. Est-ce qu'il y a les médecins sont intéressés par ce type de données?
Tout à fait. Les médecins sont extrêmement intéressés parce que généralement, ils ont peu d'indicateurs. Soit, en fait, lorsque vous allez essayer vraiment de sur un patient de savoir pour quelle raison il dort mal, ce sont des dispositifs qui sont très lourds. Vous avez vraiment des fils qu'on va vous mettre autour du visage, sur le corps, etc.
Ça nécessite
parfois de dormir en fait dans un hôpital. Alors ça, c'est vraiment pour des patients qui ont des grosses problématiques.
L'apnée du sommeil, notamment.
Typiquement. Nous, on va vous donner des indicateurs. On va pouvoir donner des premiers indicateurs à un médecin pour savoir pour quelles raisons ce patient dort mal. Trop d'agissements, des activités physiques tard le soir, beaucoup de stress. Donc toutes ces informations vont permettre, en tout cas, à un médecin de se dire... Cette personne-là dort mal. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on travaille avec des experts, que ce soit dans le sommeil, dans la psychologie positive, et ils nous disent, nous, on a généralement aujourd'hui des patients qui arrivent quand ils sont déjà en burn-out, quand déjà, en fait, ils sont dans une position qui sont...
Pas le point de non-retour, mais dans
exactement.
Une situation grave.
Exactement. Et nous, aujourd'hui, les objets connectés de la gamme Fitbit va apporter ses premiers indicateurs. Ouais, dire,
avant plonger vraiment.
Exactement. De dire, voilà, vous dormez mal, vous êtes beaucoup trop stressé, vous faites pas assez d'activité physique, etc. Et ça va permettre simplement à un utilisateur de se dire, tiens, j'ai un problème.
Quel est le prix en fait de ce type d'objet aujourd'hui? Je veux m'acheter un bracelet ou une montre Fitbit, ça me coûte combien? Après il y a des abonnements, comment ça marche?
Oui, alors la Charge 5 qui est notre nouveau produit, donc les premiers tracteurs que nous avons lancés en septembre est à 179,95 €. La Sense qui est vraiment la montre connectée la plus poussée dans le domaine de la santé et du sport est à 299,95 €. Donc tous ces produits et toute cette gamme en fait sont allié à une application Fitbit. Donc vous pouvez avoir l'application basique qui va vous donner les indicateurs les plus basiques.
On a aussi des notifs téléphone traditionnels.
Tout à fait.
Hein,
oui, bien
aussi,
sûr. Voilà. Oui, mais ça c'est un must-have.
Enfin, c'est-à-dire que ce n'est pas que des données santé, c'est aussi un outil du quotidien pour savoir ce qui se passe sur mon téléphone.
Tout à fait.
D'accord.
Vous pouvez recevoir vos mails, vos appels, votre musique, Spotify, Deezer, etc.
Bien sûr.
Donc tout à fait.
L'autonomie de ce type d'objet,
six jours.
Parce que c'est super important aussi. Hein.
Oui, mais c'est 6 jours.
C'est
et vous pouvez la porter jour et nuit. Et surtout les nuits.
À la fois le bracelet ou la montre.
Oui, tout à fait. Elles sont extrêmement agréables à porter. Et il faut la porter la nuit, parce que c'est dans les phases de nuit, on va pouvoir calculer le niveau de SPOD, le sommeil, qui sont les facteurs très importants.
J'ai vu tout à l'heure s'afficher des abonnements. C'est-à-dire qu'on peut aller plus loin aussi avec des abonnements.
Tout à fait. L'application Fitbit Premium que nous avons développée et qui a été lancée en France depuis à peu près 6 mois, va proposer justement tous ces indicateurs qui sont beaucoup plus poussés. Nous venons de lancer en novembre ce qu'on appelle le score d'aptitude quotidien, qui est en fait un score qui va allier la variabilité de la fréquence cardiaque avec le niveau de sommeil et avec l'activité physique. Et en fait, ça va vous donner un score qui va permettre en fait à l'utilisateur de se donner une routine. Il faut savoir qu'à travers notre étude IFOP et Fitbit que nous avons lancé en janvier, nous avons réalisé que 62% des Français luttent pour pouvoir se donner une routine tous les jours pour pallier justement à ce qu'on a vu sur la sédentarité, le télétravail, le manque d'envie d'aller faire du sport, l'exposition aux écrans, enfin tout ce qu'on sait aujourd'hui.
Rap-la-pla global.
Exactement,
quoi.
Et on essaye, et c'est difficile de changer, c'est difficile de se donner des objectifs. Donc nous on est là et on a développé ce score d'aptitude quotidien pour justement aider l'utilisateur à se donner des petites routines. Donc ça va être, par exemple aujourd'hui, lorsqu'on associe en fait ces trois facteurs qui est donc le sommeil, la fréquence cardiaque, et l'activité physique va vous dire, par exemple, aujourd'hui, vous êtes fatigué, il y a eu trop de stress, etc. Donc, vaut mieux privilégier le yoga. En revanche, vous êtes en super forme, et bien là, vous allez pouvoir courir. Et on À travers Fitbit Premium, on a développé du contenu à travers Calm, qui est toute ce qui est méditation, à travers Seven Mind aussi, la méditation aussi, des cours de yoga. Moi, j'ai développé énormément de cours comme ça, qui va permettre en fait à l'utilisateur de pouvoir petit à petit s'aider à avoir une
routine. Mais on n'est pas obligé de s'abonner à ce service pour pouvoir bénéficier
des indicateurs basiques.
Voilà.
Tout à fait.
Voilà, c'est Fitbit avec pas mal de nouveautés aussi. Peut-être qu'on peut prendre conscience avec ce type d'objet que le sommeil est très important. C'est, on dort hein, la plupart du temps, on ne se rend pas compte de l'intérêt qu'a le sommeil.
Il est primordial. Ouais. Et notamment en France, en fait, c'est un vrai sujet sur le sommeil. On est quand même les premiers utilisateurs.
Tout à fait. Alors, bien sûr, il y a Fitbit hein, qui permet de mesurer le sommeil, mais il y a d'autres boîtes qui le font très bien aussi, hein, WeSings notamment. Et c'est intéressant de voir que toutes ces sociétés prennent à bras-le-corps ce type de problème. Merci beaucoup Jeanne Tassel, merci d'être passée par le plateau de Quoi Je Me Mêle. Rappelons que vous êtes la responsable marketing France de Fitbit. Ce De Quoi Je Me Mêle est terminé. Merci d'avoir passé cette petite heure en notre compagnie. J'espère que vous avez passé un bon moment. On sera là bien sûr la semaine prochaine, l'audio, la vidéo hein, de Quoi Je Me Mêle. Vous pouvez nous écouter, nous regarder sur tous vos écrans et notamment sur l'appli RMC BFM Play. Et on sera là la semaine prochaine, à très vite.
De Quoi Je Me Mêle sur BFM Business et 01 TV.